One, two, three, ho!
Eric, je peux profiter de l'intro pour passer un message personnel?
Ouais, bah vas-y, bah fais-toi plaisir.
Parce que là, comme on repart pour un reconfinement et qu'on ferme tout ce qui est inutile, je voulais juste demander au gars qui a la charge de fermer l'extrême droite d'en perdre la clé.
Ah, ça serait une bonne idée, ça. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 84 et c'est un épisode qui sera dédié au cycle magazine numéro 16. On parlait de chutes dans l'émission précédente, toi t'as fait des belles chutes aussi ?
Eh bah écoute, en 2020 j'ai quand même fait, je pense, 4 chutes. J'en avais pas fait pendant 10 ans.
4 chutes,
4
en,
chutes en 2020.
Non mais 2020 de toute façon, mais c'est... Tout... Non, mais c'est normal, c'est 2020, c'est normal.
C'est ça, c'est ça. Donc, mais l'une des plus belles, enfin des plus belles...
Des plus remarquables.
Des plus remarquables, des plus stupides. Parce qu'une chute c'est toujours un peu stupide, mais alors celle-là elle est plus stupide que tout. C'était cet été quand j'étais en tandem avec mon père. J'avais mes chaussures automatiques, enfin semi-automatiques,
ah ouais, qui se clipsent,
sur la pédale. Et bêtement, j'ai clipsé mon pied avant de partir à vélo, tu vois. J'étais juste à l'arrêt, j'avais clipsé mon pied.
Ouais.
Et en me redressant pour me mettre sur la selle. Et je me suis pris la selle dans la poche arrière de mon short. T'imagines la
suite ? Le tandem qui est tombé sur ta jambe et tout ça.
Exactement.
Tout
la gamelle. Bon, il n'y avait pas de spectateurs puisqu'on était sur une voie verte déserte.
Voilà. Ah mince, même pas filmé.
Non,
t'as
même
fait
pas.
Rire personne, t'étais tout seul.
Mais je peux la refaire si tu veux.
Ouais, je veux
tu
bien.
Tu prends la place de mon père à l'avant sur le tandem ?
En tandem, pourquoi pas. Allez, on va commencer l'émission avec Cycle Magazine. Encore un super sommaire. On va parler par exemple de Peter Sagan, le coureur. On va parler d'une superbe course en charentaise. Enfin, en Charente. Une course charentaise en Charente. Encore plein de beaux paysages, de belles photos, de belles balades.
La course, elle est en charentaise ou elle n'est pas en charentaise ?
Non, c'est une vraie course à vélo. Ils ne sont pas en charentaise. Ils doivent clipser leurs chaussures.
Des charentaises automatiques, ça doit être pas mal, non ?
Ah, des charentaises automatiques à clipser sur le. Ah ouais, c'est pour le style, ça. Ouais. Non, mais là, il s'agit juste d'une course. D'ailleurs, l'article, il s'appelle Flandre Charentaise. Il y aura même un article sur le gravel en Jordanie, alors avec des photos sublimes. Et on retrouvera notre copain Claude Martalère sur les hauts plateaux du nord-ouest argentin. Et nous, on va faire un petit zoom dans l'émission sur un article qui s'appelle La roue qui tourne de Grégoire Peuvion. C'est sur les cyclistes tout seuls dans les rues de Paris pendant le premier confinement.
Génial.
Des belles photos et puis un très beau texte. Et on parlera également de Geoffroy Sébline qui a sorti un article dans Cycle Magazine numéro 16, extrait d'un bouquin qui vient de sortir. On en parlera tout à l'heure. Mais tout de suite, on va avoir Florian pour ta première chronique de l'année et t'as des bonnes nouvelles à nous apporter.
Salut, je vais vous parler de deux bonnes résolutions prises par le gouvernement français. Alors côté vélo, déjà contre le vol, le marquage des vélos devient obligatoire. Les vélos qui sont vendus neufs par des commerçants doivent faire l'objet d'un marquage depuis le 1er janvier 2021. Ce marquage, en fait, il consiste à un numéro d'identification unique à poser sur le cadre du vélo. Et ce numéro d'identification, on va le retrouver dans une base de données, un fichier national, qui va répertorier d'une part le nom, prénom, la raison sociale, le téléphone et l'adresse électronique de l'acheteur, mais aussi, d'autre part, le type d'engin, la marque, le modèle et la couleur du vélo vendu. Ce numéro d'identification, vous le retrouverez aussi sur la facture du vélo. Et puis, ce fichier national qui répertorie tout cela, va être accessible aux forces de police, de gendarmerie, aux services des douanes, aux agents des polices municipales, aux gardes champêtres, aux agents municipaux affectés au service des objets trouvés, et aussi à toute personne, service ou organisme qui contribue à l'identification des cycles. Ça, c'est pour les vélos vendus neufs. Pour les vélos vendus d'occasion, toujours par des professionnels, par des commerçants, eux aussi devront avoir un marquage du même type, mais cela à partir du 1er juillet 2021. Par contre, ce type de marquage ne concerne pas et ne concernera pas les vélos pour enfants. Voilà, ça c'était la première bonne résolution. Deuxième bonne résolution, ça concerne le forfait mobilité durable. Souvenez-vous, l'an dernier, on avait parlé du forfait mobilité durable qui avait été mis en place. Mais il avait été mis en place pour les salariés du secteur privé, pour les salariés de la fonction publique d'État. Et bien, depuis le 9 décembre 2020, ce forfait mobilité durable, il est aussi accessible aux salariés de la fonction publique territoriale. Désormais, si vous travaillez en mairie, en collectivité territoriale, vous avez le droit au forfait mobilité durable, c'est-à-dire, pour rappel, jusqu'à 200 euros par an si vous vous engagez à pédaler entre votre domicile et votre lieu de travail au moins 100 jours par année. Par contre, bien sûr, le nombre minimal de jours est modulé selon la quantité de temps de travail. Donc voilà une deuxième bonne nouvelle. Avec ces deux bonnes nouvelles, je vous souhaite de belles escapades pour 2021. Saisissez-vous de tout ça. Et puis, je vous dis à bientôt.
Et ben voilà, 2021 s'annonce bien pour les cyclistes aussi après 2020.
Oh, bah de toute façon, je pense que ce qui a été lancé en 2020, ça va continuer en 2021 pour les cyclistes. Et là, vraiment, vraiment, on va se régaler encore plus cette année.
On espère.
Ouais. Et j'espère qu'on pourra avoir. C'est peut-être pas très sympa ce que je vais dire, mais retrouver des rues où on sera seul, comme c'était lors du premier confinement. Ça, c'était quand même extraordinaire à vivre.
Ouais.
Et d'ailleurs, dans Cycle Magazine, dans le numéro 16, il y a un article sur ça, un article de Grégoire Peuvion qui s'appelle « La roue qui tourne » et il nous parle de son pari qu'il a fait tout seul à vélo.
Son pari...
La ville de Paris.
La ville,
ouais,
d'accord.
Sa façon d'interpréter Paris. On n'a pas pu résister au plaisir de vous faire une lecture du tout début de cet article par Quentin.
Le monde d'avant, celui d'après. Ou l'inverse. C'est con le vélo quand même. Je me dis en lançant les fesses hors de la selle pour avaler les derniers mètres d'ascension avant la bascule du col de Buriane. Fut une époque où je m'arrêtais en haut des cols. Pour souffler, coller un sticker, boire ou prendre une photo. Mais là, je suis chaud comme une baraque à frites, hydraté ce qu'il faut, et pas venu pour chasser l'image ou marquer mon territoire. Alors je me rassieds, me mouche, enfile mes lunettes, passe dans les drops et sur le grand plateau dans une série de gestes automatiques et précis. Ça plonge, le nez dans la potence. Le gars s'y croit. Ça doit être ses airs de Tour de France tardif ou d'été qui veut plus s'en aller, je sais pas. Je m'y crois tellement qu'après quelques virages, je file sans un regard devant la boulangerie de Beauvaine, et sans aucun autre bruit que le ronronnement de ma roue libre qui fait tourner les têtes des anciens réunis en grappe sur un muret. C'est le Parisien ! Tant pis, je prendrai le pain au retour. Bon, pause. Je te dois un aveu, lecteur. Cette fois-ci, toi et moi, on va pas partir au bout du monde. Pas de traversée de continent, de course haletante, ni cette résilience joyeuse qui berce sans aucun doute les voyageuses d'aventure dont sont garnies les pages voisines à celle-ci. La mienne d'aventure, ce jour-là, devait se résumer à aller acheter ma miche de seigle à 10 km de la maison. Mais si tu lis ces lignes, tu dois le savoir autant que moi. Le vélo a ce merveilleux pouvoir de faire voyager l'esprit autant que le corps. Circonstances exceptionnelles obligent, c'est de ça dont il va s'agir ici. T'inquiète, ça va bien se passer.
Eh bien, j'espère que cet extrait va vous donner envie de lire la suite parce que l'article est vraiment sympa. Moi, il y a une phrase qui m'a marqué, qui est plus loin.
Je parie que c'est celle-ci, Eric. Paris qui te chuchote à l'oreille comme cette fille avec qui tu quittes le vacarme d'une soirée. Enfin seul.
Ouais, et tout l'article est écrit comme ça sur un style très sympa. Et puis je vous parle pas des photos qui sont vraiment cool. Arnaud, tu voulais nous parler d'un truc.
Mais oui, parce que tu vois, on parle de Paris, Anne Hidalgo veut lancer la ville du quart d'heure où chaque chose se trouve à moins de 15 minutes de ton chez-toi, en fait. Et il y a eu une annonce qui a été faite en Arabie Saoudite. Figure-toi que l'Arabie Saoudite, c'est le premier exportateur de pétrole au monde.
Ouais.
Et ils viennent d'annoncer qu'ils allaient construire une ville de 170 km ou 170 km de long, sans une seule rue. Sans voiture.
Comment ils vont faire ça ? Il y a un petit truc qui m'est venu à l'esprit quand tu as dit que c'était un exportateur de pétrole qui voulait faire une ville sans pétrole. Mais il y a un bon exemple comme ça, c'est la Norvège qui exporte du pétrole et qui fait tout en fait pour se passer des moteurs à explosion. Donc après tout, on peut imaginer.
Alors là, c'est pas seulement les moteurs à explosion, ils parient même pas sur les voitures électriques.
Plus rien.
Plus rien. Aucun véhicule, en fait, il y aura aucune route. Pour aucun.
Que des rues,
voilà,
quoi.
Que des rues. L'objectif, c'est d'avoir la ville des 5 minutes. C'est-à-dire que dans un rayon de 5 minutes à pied de chez toi, tu trouves tout ce dont tu as besoin. L'autre objectif aussi, c'est des transports en commun, eux, qui seront souterrains.
Hyper performants.
Hyper performants, hyper rapides, puisque le but, c'est de traverser la ville en 20 minutes. Donc 170 km en 20 minutes. Je te laisse faire le calcul de la vitesse à laquelle on va aller.
D'accord, mais va avoir quelle forme ? Ça va être un anneau, quoi, la ville ou quoi ?
Alors non, ça s'appelle The Line, donc c'est une ligne droite
tout
de
en
170 km de long.
Non, mais c'est un sketch, là.
Au milieu des âges, je t'assure que non. Alors, ça le sera peut-être. En tout cas, ça a été annoncé par le prince héritier Mohamed Ben Salman, qui a fait cette annonce le 10 janvier 2021, donc c'est tout récent. Donc on attend de voir, il devrait lancer les travaux au troisième trimestre de 2021.
Ah oui, donc c'est pas trop du flan, c'est pas genre...
Non, c'est... Alors après, est-ce que c'est juste un effet d'annonce pour attirer des investisseurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont quelque chose d'abouti. Et l'objectif, c'est zéro émission de carbone dans cette ville.
Bon, après, pour faire du vélo en Arabie, vu le climat, c'est peut-être tendu. Mais bon, une ville sans voiture... Allez, on va rêver, on va faire comme si c'était faisable. Et je t'avoue, Arnaud, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai un petit doute sur la faisabilité du projet.
J'ai envie d'y croire.
Moi, j'ai envie d'y croire.
Et puis
aussi,
le fait que ce soit le premier pays exportateur de pétrole au monde qui veuille se passer de la voiture, pour moi, c'est un symbole.
Ouais. Bon, allez, on va rêver. On va dire que ça, c'est faisable. On va continuer à rêver, mais cette fois en France. Il y a un autre article dans le Cycle Magazine numéro 16, un article de Geoffroy Sébline, qui est en fait un extrait d'un bouquin qui sort en même temps que le magazine. Ce bouquin s'appelle « Deux jours en France à vélo » et le concept est simple. C'est deux jours et il propose tout plein de trajets, une vingtaine de trajets que tu peux faire en deux jours en étant un peu sportif. Hein, c'est un petit peu long quand même. Chaque chapitre décrit un trajet, donc il y a un trajet qui est décrit dans le magazine et il explique par où il passe, comment c'est beau. Il y a des magnifiques photos de la France vide. On a envie de se coller dans ces paysages-là. Et du coup, ça m'a tellement marqué cet article que j'ai interviewé Geoffroy. Salut Geoffroy, comment ça va ?
Salut Eric, merci de me donner la chance de m'exprimer, de raconter mon livre.
C'est un livre qui fait plaisir, là, je le tiens entre les mains, deux jours en France à vélo, bah, ça donne vachement envie de partir, c'était le but, non ?
Bien sûr, c'est l'un des premiers buts, c'est de donner envie de découvrir la France. Tu sais, le vélo, c'est pas toi que je vais le dire, mais c'est un rythme assez lent, c'est un rythme où on peut prendre le temps de découvrir les choses, découvrir les gens, découvrir les paysages, on peut s'arrêter quand on veut, où on veut, et regarder le paysage pendant des heures, on peut le faire, et après on repart à vélo. Donc c'est vraiment une invitation à la liberté.
Alors le principe, il est tout simple, hein. Tu pars deux jours d'un point A à un point B, et puis tu fais tout ça à vélo, mais quand même, moi je ne te suivrai pas, je crois, en vélo. Hein.
C'est-à-dire qu'en règle générale, sur deux jours, je vais faire 250 km. Et en fait, à chaque fois que je raconte ça à mes copains, ils me disent « Non, mais c'est impossible. Comment tu fais ? T'es dopé. C'est pas possible. » Et en fait, assez mathématiquement et assez simplement, je leur explique que bah, lorsque je prends mon vélo à 8h du matin et que je vais pédaler pendant 4 heures, bon, bah, je vais faire une bonne soixantaine de kilomètres. Et puis, il est midi, midi et demi, je m'arrête pour déjeuner. Et puis, je fais une bonne pause de déjeuner, je me repose. Et puis, à 14h, je me remets à pédaler de 14h à 18, 19, 20h, donc pendant 4 heures. Et pendant 4 heures, on fait assez rapidement 80 km. C'est vrai que le lendemain, tu peux peut-être avoir un peu mal aux fesses, mais c'est une habitude. Les 120 km, c'est assez vite faisable.
Ce que tu fais en un week-end, moi, il me faudrait une semaine pour le faire. Hein. Le temps que je m'arrête, que je regarde les petites fleurs, puis avec l'état de mes mollets, non, je crois que je ne pourrais pas faire ce que tu fais. On sent que t'es un amoureux de la France. Là, je vois la table des matières. Il y a une vingtaine de trajets, que ce soit Noirmoutier-Orléans, Dax, Souillac, Nevers, La Souterraine. Tu es un amoureux du pays, non ?
Ouais, je suis un amoureux de la France. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis toujours, j'ai toujours aimé cette France profonde. J'ai la chance d'habiter à Paris, puis en même temps, c'est une malchance. C'est génial, c'est une grande ville, il se passe beaucoup de choses, il y a une activité incroyable. Mais quasiment tous les jours, je pense à, tu sais, cette ruralité, à ce calme, à cette paisibilité, à cette sérénité, à ces moments, tu sais, assez uniques quand tu es tout seul, perdu dans l'Aubrac ou perdu dans les monts d'Arrée ou au milieu des landes immenses entre Dax et justement et Marmande. Et, tu sais, c'est la France des petits restaurants où tu manges très très bien pour pas très cher. C'est la France des paysages oubliés, des villages qui sont complètement perdus et qui sont juste magnifiques. En fait, le vélo a été pour moi vraiment une opportunité pour découvrir cette France qu'on oublie. En fait, c'est très facile. Tu prends ton train, ton petit ER, tu descends à Châteauroux, et puis tu vas faire Châteauroux, Clermont-Ferrand, et puis tu passes par la Brenne, tu passes par le début des contreforts du Massif central, et puis tu vois des paysages incroyables.
Alors, tu parles de la France paisible, et le livre rend bien compte de ça, notamment au travers des photos. Sur les photos, il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de voiture, il y a la route et des paysages sublimes. Tu peux nous parler de ça ?
Au tout début, quand j'ai commencé à pédaler, en fait, tu as raison, je suis un amoureux de la France, je suis un amoureux de la nature, Et j'étais, tu sais, très touché par la beauté des paysages. Moi, je me souviens très bien de m'être retrouvé tout seul dans les Cézaliers, qui est un plateau incroyable. On connaît tous l'Aubrac, on connaît tous le Larzac, les Cévennes, mais on ne connaît pas du tout les Cézaliers. C'est un plateau incroyable qui est au sud de Clermont-Ferrand, au sud de Saint-Nectaire. Au début, je me retrouvais dans des paysages incroyables. Tu sais, quand tu fais ça pendant 20 ans, forcément, bah, tu demandes ton chemin, tu demandes l'aide d'une personne, d'un paysan, tu demandes l'hospitalité, l'hébergement. Et de plus en plus, tu rentres au contact des gens. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de photos de paysages, il y a beaucoup de photos d'instants un peu magiques, d'instants très calmes, très, très paisibles. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à prendre en photo, mais ça, c'est venu après. Des gens qui m'ont accueilli, qui m'ont parlé. Une fois, je suis passé dans un petit village dans la Somme. J'ai parlé avec un couple qui avait 80 ans et qui fêtait leur anniversaire de mariage dans un petit village dans la Somme. Et on a discuté, on a sympathisé, je les ai trouvés très touchants. Puis je leur ai dit, est-ce que je peux vous prendre en photo? Et puis après, je leur ai envoyé la photo encadrée dans un joli cadre, en les remerciant de ce moment assez, assez simple, assez vrai, assez authentique. J'ai gardé comme ça des contacts. Donc oui, c'est vrai, il y a beaucoup de photos de paysages, de photos de moments très calmes, très, très sereins, très paisibles. Et puis il y a de plus en plus. Surtout à partir de la deuxième moitié peut-être du livre, beaucoup plus de moments avec la rencontre avec l'habitant, avec de l'échange, avec des conversations, des gens qui m'ont hébergé, des gens qui m'ont donné la clé de chez eux pour que je puisse venir dormir. Enfin, que des moments de vrai partage. Et souvent, on m'a posé la question en me disant, t'es forcément arrivé une merde, t'es forcément arrivé un problème, t'es forcément arrivé une aventure aux limites où tu sais, tu t'es perdu dans la forêt et quelqu'un a voulu te couper la gorge.
Ouais.
Des bons souvenirs, que des belles rencontres, que des moments assez magiques de partage, d'authenticité. C'est pas la France du journal de 20 heures, c'est un peu la France de deux jours en France à vélo. Tu as envie d'aimer la France, les Français, ses paysages, ses routes, ses chemins.
Moi, j'avais envie d'être dans tes photos, de faire partie de ce paysage-là, de le traverser avec mon vélo. En tout cas, vraiment, les photos, ça donne vraiment envie de découvrir notre beau pays. Et puis, peut-être un dernier point que je voulais voir avec toi, c'est un travail de longue haleine, ton bouquin, parce que entre le premier périple que tu décris et le dernier, il s'est écoulé 20 années quand même.
Il y avait rien de projeté, il y avait rien de réfléchi au début. C'est-à-dire qu'en 99, j'avais 20 ans, j'ai commencé à faire du vélo avec des potes, et puis j'ai recommencé l'été d'après, puis après les week-ends, et puis après en semaine, et puis après j'en ai fait une dizaine de sorties par an. Et donc j'ai accumulé plein de souvenirs, plein de photos, plein d'anecdotes. Et puis j'ai trouvé un éditeur, Rossolis, qui m'a fait confiance, qui a été touché par cette expérience et qui m'a donné ma chance.
Allez, il nous a plu ton livre. Où est-ce qu'on peut le retrouver?
En grande, grande, grande priorité, c'est d'aider vos libraires, c'est-à-dire d'aller dans une librairie, de commander ce livre qui s'appelle 2 jours en France à vélo. Et puis sinon, vous pouvez aussi le commander sur le site de mon éditeur. Donc, c'est les éditions Roselys qui le distribuent via leur site internet.
Eh ben merci Geoffroy, à bientôt.
À très bientôt. Merci Eric et bon vélo, bonne route.
Je t'avoue Arnaud qu'après l'interview avec Geoffroy, j'avais envie de partir en vacances, j'avais envie de retrouver la liberté, prendre mon vélo à travers la campagne, perdue, tout ça, avoir chaud, m'arrêter pour bouquiner, boire, trouver de la flotte dans un petit village. Ça m'a trop donné envie de partir. Ne
Tu
regarde pas
m'étonnes.
ce livre, ne regarde pas les photos, tu vas vouloir partir tout de suite.
C'est vrai.
Ouais.
Alors, tu sais déjà que j'ai décidé ce que j'allais faire cet été comme voyage à vélo
Tu vas
avec
faire
mon
quoi?
fils. Eh ben, en fait, j'ai proposé à mon fils qui va avoir 8 ans cet été, je lui ai dit, tu choisis la direction. À chaque intersection, tu choisis dans quelle direction on va aller. Et on va se laisser aller comme ça, au gré des virages.
Mais pourquoi pas, après tout? Le
Laissons-nous
hasard,
surprendre.
les petites routes. Ouais,
C'est
c'est
ça.
ça qu'il faut. D'ailleurs, on fera une émission, c'est promis, en
Comment se
juin.
perdre un vélo?
Ouais, non, sur partir en vacances avec des enfants en vélo. Parce que je crois
Ouais.
qu'en combinant tes expériences et les miennes,
On a ce
on a
qu'il
un beau
faut.
panel, hein. Est-ce que tu as entendu parler de l'association La Ville à Vélo, de ce qu'ils ont fait en début de mois?
Alors, pas du tout.
Alors, c'est une association lyonnaise, c'est la grosse association lyonnaise de vélo, et ils étaient 70 à se retrouver sur une rue et à protéger les bandes cyclables. En
Ah,
fait, ils
c'était
étaient de
eux.
chaque côté de la rue,
Oui.
ils étaient alignés avec leur vélo, ils étaient stationnés debout sur les bandes blanches pour empêcher les voitures de se garer sur les pistes cyclables. Et qui de mieux qu'une des initiatrices de cette action pour nous en parler? J'ai interviewé Frédéric de La Ville à Vélo à Lyon.
C'est quelque chose qu'on avait déjà fait il y a 3 ans. C'est une opération Protège ta piste. Donc, c'est pour sécuriser les pistes cyclables, pour empêcher que des automobilistes se garent dessus et qu'il y ait trop de livraisons sur les pistes cyclables. Ça empêche aussi les scooters d'utiliser les pistes cyclables. Donc, on se met le long entre la voie cyclable et puis la voie générale. Et puis, on incite les cyclistes à passer côté cyclable et les automobilistes à rester de l'autre côté.
Et au final, sur le long terme, qu'est-ce que vous attendez d'une action comme ça?
On avait plusieurs objectifs. Hein. La première, c'était de sensibiliser les automobilistes. Mais finalement, quand on regarde on est resté sur place une heure. Sur une heure, il n'y a pas tant d'automobilistes que ça qui nous ont vus, qui ont compris ce qu'on faisait. On visait les élus pour qu'ils verbalisent ce type de comportement. On visait les forces de l'ordre pour ce qu'ils viennent verbaliser également. Et puis aussi, évidemment, les médias, hein, puisqu'on a eu quand même pas mal de médias qui sont venus nous voir et on a eu pas mal de retours assez positifs. C'est quelque chose que les cyclistes attendaient parce que des voitures garées sur les pistes cyclables, il y en a partout. On a choisi une artère qui avait été refaite assez récemment dans Lyon. Le nombre de voies a été diminué pour créer 2 bandes cyclables de chaque côté. Mais ces bandes cyclables sont très souvent utilisées comme bandes de stationnement, de livraison. Voilà. Donc pendant l'opération, on a eu pratiquement tout le temps un camion qui est resté garé en livraison sur la bande. On a réussi à le faire partir. Trois quarts d'heure, il est resté 40 minutes. On a réussi à le faire partir à la fin, mais il ne voulait pas parce qu'il attendait les ordres de son chef. Enfin, bon, c'était compliqué, visiblement, de partir et d'aller se garer ailleurs, alors que son rayon était fermé, hein, il n'était plus en train de livrer. Ce genre de comportement, on veut sensibiliser tout le monde au fait que c'est, même pour 2 minutes, ce n'est pas possible. Il y a déjà plusieurs cyclistes qui sont morts simplement parce que quand on est sur la voie cyclable et puis qu'on est obligé de déboîter, on n'a pas toujours une bonne visibilité. On peut se faire happer par un autre véhicule, une voiture, un camion. Il y a déjà des cyclistes qui sont morts et des automobilistes qui ont été condamnés à de la prison avec sursis pour s'être garés sur la piste et avoir donc causé le décès d'un cycliste.
Comment les automobilistes ils ont réagi pendant que vous avez mené l'action? Est-ce qu'il y en a qui se sont arrêtés pour discuter? Est-ce qu'il y a eu des rageux en colère? C'était plutôt sympa? C'était comment?
On a eu quelques coups de klaxon, mais finalement pas tant que ça. On n'a pas eu de mauvaises réactions. On a eu quelques commentaires, mais voilà, sans plus, quoi.
Et alors, le résultat final de tout ça, ça correspond à vos attentes? Vous avez des retours de la police, des élus, autre chose?
Alors, on a des retours des élus, oui, puisqu'on avait un rendez-vous qui était prévu avec l'adjoint à la mobilité de Lyon ce mardi. Donc, on en a reparlé. Hein, on en avait déjà parlé avec lui. Il nous a dit qu'avec les circonstances actuelles, les verbalisations avaient effectivement un peu baissé, mais que ça allait reprendre. Donc, il nous a assuré de ça, ce qui est un point positif quand même. On a eu la visite des forces de l'ordre aussi sur place, qui sont venues voir l'opération. Voilà, donc ce qu'on aimerait bien faire aussi avec les élus, enfin avec les forces de l'ordre surtout, c'est organiser ce qu'on appelle une action Vie ma vie. Donc, on les met sur des vélos et puis on les emmène un petit peu se déplacer, mais sans uniforme, parce que quand il y a l'uniforme, les automobilistes sont étrangement beaucoup plus sages. Donc, les emmener un petit peu se déplacer avec nous dans les rues de Lyon pour qu'on compare nos vécus, quoi, en fait. Donc, je pense qu'on va réussir à monter un jour une opération comme ça pour faire la sensibilisation dans les deux sens. Ça permet de mieux prendre conscience des difficultés de chacun.
Et s'il y avait d'autres associations qui trouvaient l'idée géniale et qui avaient envie de refaire la même chose chez eux, qu'est-ce que tu leur conseillerais ?
Oh bah de le faire, hein. C'est facile à faire, c'est très facile à organiser. En fait, on fait une déclaration à la préfecture de rassemblement sur la voie publique. On envoie des mails aux militants et là, on était une grosse 60aine un matin à 8h comme ça. On n'a eu aucun problème pour rassembler du monde. Les gens étaient contents, même s'il ne faisait pas très chaud. C'est vraiment le type d'opération facile à mener et je pense rentable à la fois du point de vue militantisme et puis à la fois du point de vue des retours qu'on a pu avoir avec les élus et puis avec les médias. Bien sûr aussi. Nous, notre objectif, ce n'est pas de mettre des gens qui sont tous bien barbus et bien jeunes sur des vélos, mais c'est plutôt de mettre des familles sur des vélos, des personnes âgées sur des vélos. Et ben, vous n'emmènerez pas vos enfants dans une rue sur laquelle vous avez des voitures garées tout du long, ou dans le meilleur des cas, tout le monde reste sur le trottoir, ce qui n'est pas une solution non plus. Donc l'objectif, hein, c'est d'avoir une voirie qui soit apaisée pour qu'elle soit efficace et utilisable pour tous et toutes.
Et ben là, tu viens de nous donner 2 bonnes idées déjà. Alors l'opération que vous avez faite sur les bandes cyclables, puis l'opération Vie ma vie, c'est quand même génial ça. Eh bien écoute, Frédéric de l'association La Ville à Vélo, je te remercie de tout cœur. À bientôt.
Merci à toi, à bientôt.
Bon, c'est une bonne idée quand même, faudrait qu'on applique ça à mort, Géric.
Ah, moi je suis chaud, hein. Je suis motivé. Ouais. Puis ce qui est bien, c'est qu'ils étaient ensemble, tu vois, un groupe, ils s'entraident, quoi. Donc l'automobiliste qui n'est pas content parce qu'il ne va pas se gracier à la piste cyclable, bon, il n'est pas en majorité, là.
Non.
Là, il est plus discret. Mais je pense que c'est assez énergisant, ces trucs-là. Il n'y a pas beaucoup d'agenda ces derniers temps, non. Mais on a quand même 2-3 infos.
Alors ça bouge tout le temps, de toute façon, on ne peut rien planifier. Alors là, on a une valeur sûre. C'est que l'année passée, on avait été au Festival international du voyage à vélo qui avait lieu à Vincennes, qui a été remplacé cette année par une journée Oser le voyage à vélo qui devait se tenir le 16 janvier 2021 à Vincennes.
Mais même ça, ça n'a pas tenu.
Ça a été annulé aussi, mais en remplacement, Cyclocamping International vous propose une exposition photo qui sera en place du 20 janvier au 14 février, place Pierre Semard à Vincennes, sous le parvis du RER. Une quarantaine de photos seront exposées, illustrant des destinations lointaines comme le Vietnam, le Cambodge ou l'Amérique latine, parce que Dieu sait qu'on a besoin un peu de dépaysement en ce moment. Mais les paysages et routes de France seront aussi largement représentés et des adhérents seront présents samedi 23 janvier autour de l'exposition. Donc bon, on vous propose d'aller là-bas pour vous changer un petit peu les idées et pour voyager par procuration.
Eh ben on va se quitter là-dessus mon gars. La semaine prochaine, on laissera la place à nos copains des Sockets en titane. Je vous avoue que ça se passe tellement bien avec eux que la dernière émission de chaque mois, eh ben ça sera un montage parce que leur émission dure 1h30, nous on va la condenser en une demi-heure. Ça sera les Sockets en titane. Voilà, le best-of de leur émission. La musique, c'est Laura Scaglia, le titre c'est Immuance. Et puis n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo !
Les regards s'évitent, je les sens derrière moi, me pointer du doigt. Les mots n'osent pas, mais tour à tour s'unissent, d'une seule voix, un sourire s'esquisse. Le rend-il pas unique?